Bang Bang.
Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde d'Alexandre Medvedovski, président de SL Network. On va parler des rapports de force États-Unis, UE, Chine, Inde et Russie. Je suis Rizlan Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Alexandre Medvedovski, comment allez-vous ?
Ça va très bien.
La Russie et l'Occident, c'est pas un peu un dialogue de sourds ?
Je crois pas que ce soit un dialogue de sourds. Je pense que c'est un dialogue musclé entre des pays ou des régions qui ont des intérêts divergents et qui font plutôt valoir leur stratégie et leurs muscles. La Russie a engagé un conflit en Ukraine pensant que ça passerait facilement, qu'ils auraient des conquêtes géographiques rapides, aisées, et qu'ils rencontreraient en plus une adhésion massive de la population russophone ukrainienne. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les Ukrainiens se sont, à juste titre, défendus, se sont tournés vers l'Europe, et l'Europe, dans sa globalité, et même au-delà de l'Europe, on peut dire l'OTAN, dans sa globalité aussi, ont estimé que la Russie venait menacer les intérêts stratégiques de l'Europe et donc se sont mis en travers du chemin de la Russie. Et donc, c'est pas un dialogue de sourds, c'est un dialogue de personnes qui se répondent mutuellement avec leurs armes, leurs stratégies et leur vision géostratégique qui est profondément différente.
Il ne manquerait pas une stratégie européenne pour rétablir la paix sur le sol européen ?
Rétablir la paix, je pense que c'est un sentiment qui anime l'ensemble de l'Europe et du continent européen, qui n'aime pas voir la guerre s'installer sur son continent. Mais comme l'a rappelé encore récemment le président Macron et comme le rappelle un certain nombre d'autres dirigeants européens, le déclencheur des hostilités, ça a été la Russie, qui a envahi l'Ukraine de façon extrêmement agressive. Et donc, la première condition pour rétablir la paix, c'est que la Russie accepte d'arrêter son engagement militaire sur un pays qui ne lui appartient pas et dont il a violé les frontières, et d'accepter donc d'une certaine manière de déposer les armes. La stratégie de l'Europe, c'est de ramener la Russie à ces discussions, à ces négociations, à la fois dans un premier temps en mettant la pression sur l'économie russe et sur les dirigeants russes par des régimes de sanctions extrêmement importants, et c'est aussi de venir soutenir la défense de l'Ukraine pour éviter une défaite militaire sur le sol de l'Ukraine qui menacerait la viabilité, la stratégie et la paix en Europe. Donc oui, bien sûr, on a tous envie de voir la paix revenir et s'installer, mais cette paix, elle ne passera pas par un sentiment de faiblesse ou de démission face à l'agression russe dans cette région. Elle doit passer d'abord par l'établissement d'un rapport de force, de lignes rouges à ne pas dépasser et franchir. Et il faut que Vladimir Poutine et son régime comprennent que, de ce point de vue-là, l'Europe, même s'il peut y avoir ici ou là des modes d'expression différentes à des moments donnés, est extrêmement soudée sur cette vision et sur cette stratégie-là. Pour faire la paix, il faut être deux. Et ça, il s'agit absolument pas de démissionner ou de donner l'impression d'être faible face à un agresseur si on veut pouvoir déboucher sur un plan de paix équilibré demain.
L'Inde et la Chine ont félicité Vladimir Poutine de sa réélection. Comment expliquer la réaction du ministère des Affaires étrangères français ?
Alors, c'est pas que la réaction du ministère des Affaires étrangères français, hein, c'est la réaction du Premier ministre anglais, du chancelier allemand, de la majeure partie des grandes nations européennes. Féliciter un dictateur de sa réélection à une élection, franchement, on a mieux à faire quand on cherche à garantir la paix, à promouvoir des idéaux démocratiques dans le monde. Voilà, donc on peut se faire plaisir en félicitant quelqu'un qui a emprisonné, assassiné, empêché ses opposants d'être candidats à une élection. on peut le féliciter, bien sûr, si on pense que c'est comme ça que les relations diplomatiques doivent s'établir dans le monde. Honnêtement, c'est pas la vision européenne de la vie démocratique et de la façon dont doivent se passer des élections dans un pays. Et donc, c'est un peu normal que dans cette période, je dirais, en temps de paix, à la limite, dire à Vladimir Poutine, eh ben bravo, et encore un mandat, pourquoi pas, félicitations. Mais en temps de conflit où un pays menace le sol européen, l'unité de l'Europe et la vision européenne de son avenir, aller le féliciter d'avoir tordu les règles démocratiques une fois de plus dans son pays pour s'assurer du maintien au pouvoir dans un mode autocratique, autoritaire, voire dictatorial, non, c'est pas trop notre tasse de thé. Mais c'est un peu normal.
Quelque part, Vladimir Poutine est devenu l'ennemi de l'Occident.
Ouais, c'est un peu dommage parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Russie n'est pas l'ennemi de l'Occident. Hein, voilà. Vous savez, moi, je m'appelle Medvedovski, je suis originaire de cette région du monde. Mon grand-père est venu en France en 1909 à un moment où la Russie et l'Ukraine, c'était un peu la même chose. J'ai toujours été personnellement très convaincu que la Russie et l'Europe avaient beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, je ne suis absolument pas, et beaucoup de Français et d'Européens sont comme moi, nous ne sommes pas absolument pas des adversaires de la Russie et nous avons toujours plutôt eu envie de nouer des partenariats, de construire des relations économiques apaisées entre ces deux parties de la grande Europe, on va dire. Et donc, on n'est pas du tout de demandeur du climat tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Simplement, au-delà de la Russie, il y a la pratique d'un régime, il y a le comportement de son dirigeant actuel et de l'équipe qui l'entoure. Et on ne peut pas accepter un tel comportement. On ne peut pas accepter des agissements de cette manière. On ne peut pas accepter que les frontières soient violées de la manière dont elles le sont. Parce que si aujourd'hui c'est celle de l'Ukraine, demain ça peut être celle de la Moldavie. Après-demain, ça peut être celle, et on l'a déjà vu par le passé, de pays comme la Géorgie. Pourquoi pas demain des États baltes? Où s'arrêtent les ambitions et l'expansionnisme dans une vision passéiste de la grande Russie de Vladimir Poutine? Personne n'en sait rien et il faut qu'on se mette en travers de la route pour lui dire il y a des choses qui ne sont pas acceptables et des choses que nous n'accepterons pas. Et ça n'a rien à voir avec un sentiment anti-russe. Je vous dis, on aime beaucoup la Russie, on a envie de relations apaisées et constructives avec ce grand pays.
Maintenant, un autre spécimen, Trump.
Ouais.
Trump sera probablement réélu.
Ouais.
Qu'est-ce que ça changera sur l'échiquier mondial?
Ouais, je vois qu'on aborde tous les beaux sujets cet après-midi. Ben, non, mais vous savez, tout ça est assez préoccupant parce qu'on a d'un côté donc cet affrontement avec Vladimir Poutine et cette nécessité de nous faire respecter et de respecter l'intégrité de l'Europe. Et on a de l'autre côté un pays qui, depuis plusieurs décennies, est notre allié et l'a montré à l'occasion du premier conflit mondial, du second conflit mondial. Donc les États-Unis ont toujours été un allié, ont défendu la liberté de nos pays et de nos peuples. L'élection de Trump est une élection qui peut remettre en cause un certain nombre des fondamentaux de cette alliance-là et de l'amitié qui nous lie avec les États-Unis. Voilà. Alors, bien malin qui peut dire ce que fera Trump s'il est réélu président des États-Unis, parce que il est difficile à cerner, il change souvent d'avis, il a une vision des intérêts des États-Unis qui ne correspond pas à une lecture assez classique des relations diplomatiques ou des relations économiques internationales. Donc on ne sait pas très bien ce qui se passera. Mais déjà cette incertitude-là, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, c'est déjà inquiétant en soi. Il y a un moment où le monde est traversé de grandes batailles, de conflits économique, géostratégique, entre la Russie, on vient de le dire, et l'Europe, entre la Chine et les États-Unis, entre le monde des pays émergents et le monde des pays développés. Donc, dans tous ces grandes batailles ou conflits stratégiques ou géostratégiques qui sont source d'instabilité, qui sont source de guerre, qui sont source en tout cas de dysfonctionnement, eh bien, le fait de ne pas savoir ce que la première puissance économique du monde, les États-Unis, feront demain est préoccupant. Et nous, dans nos relations, par exemple, avec la Russie, c'est pas la même chose de pouvoir compter sur un soutien entier et total des États-Unis ou d'avoir un président des États-Unis qui peut remettre en cause son engagement dans l'OTAN parce qu'il peut estimer que c'est trop lourd à financer, à payer, ou que les pays de l'Europe doivent faire plus dans leur engagement dans l'OTAN. C'est pas la même chose de savoir si Trump, dans des relations personnelles qu'il peut avoir avec Vladimir Poutine, peut avoir envie d'aller discuter avec lui en particulier. C'est pas la même chose de savoir si Trump va ou non rentrer dans un conflit plus violent dans le Pacifique avec la Chine ou pas. Donc il y a toute une série de questions qui se posent en termes diplomatiques et de géostratégie qui sont évidemment très importants pour nous, puisque c'est la première puissance économique dont on est en train de parler, et c'est un allié traditionnel de l'Europe depuis longtemps, et sur lequel on a fondé l'équilibre du monde actuel.
David Cumin, professeur de relations internationales à l'université Jean Moulin Lyon 3, nous a expliqué que le Pakistan regarde vers l'Inde, l'Inde regarde vers la Chine regarde vers les États-Unis. Qu'en pensez-vous ?
Tout le monde regarde tout le monde, si vous voulez. Donc, je suis intimement persuadé que tous les professeurs d'université peuvent souligner effectivement que tout le monde regarde tout le monde. Derrière tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, l'Inde est une très grande puissance. Une puissance émergente, bien sûr, mais c'est un grand pays. C'est un grand pays par le nombre d'habitants, puisque ça va devenir, si ça ne l'est déjà, la première démographie du monde, devant la Chine. C'est une économie qui est émergente, mais qui monte petit à petit et progressivement. Et l'Inde a toujours fait partie de ce bloc de pays dit non alignés, qui a toujours rechigné et était un peu révulsé à l'idée de choisir son camp entre la Russie et l'Occident, entre la Chine et la Russie, entre... Bon, bref, ils ont toujours plutôt cherché à faire émerger un bloc de pays qui soit un peu autonome et indépendant. Et donc, la diplomatie indienne, de ce point de vue-là, est extrêmement importante et intéressante. Et en même temps, l'Inde a à ses frontières la Chine, l'Inde a à ses frontières un grand pays musulman qui est le Pakistan. Donc, on voit bien que les problématiques de l'Inde elle-même, pour assurer sa sécurité, pour assurer la paix autour de ce grand pays, sont des éléments très importants. Voilà. Et donc, la diplomatie indienne ces dernières années a oscillé en permanence entre une grande proximité avec la Russie sur le plan commercial, militaire et de défense, plutôt pour se protéger de la Chine. Aujourd'hui, des discussions et des dialogues avec la Chine, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est difficile de s'opposer à ce grand voisin régional aussi, et une volonté de garder un équilibre et des bonnes relations aussi avec l'Occident et avec les États-Unis en particulier. Donc cet équilibre-là, il est à suivre de près, parce que je vous dis, on est en train de parler d'un pays qui va ou qui a ou qui doit friser aujourd'hui le 1,4 milliard ou le 1,5 milliard d'habitants, ou si ça n'est pas encore le cas, ça le sera dans les quelques années qui viennent. Voilà. Donc, ce regard entre l'Inde et la Chine est un élément très important pour savoir ce qui va se passer dans cette zone du sous-continent asiatique, hein, de l'Asie du Sud-Est. Et on voit bien qu'il y a un décalage progressif du poids des économies mondiales vers cette zone-là, hein, de l'Asie et du Pacifique. Et donc, ces équilibres à trouver sont extrêmement importants. Et c'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis aussi, on en fait un de leurs principaux enjeux stratégiques en s'opposant de façon très forte à la Chine et à l'économie chinoise pour dire nous sommes la première puissance technologique et nous ne voulons pas voir émerger une puissance qui soit susceptible de venir nous concurrencer sur les segments qui sont les autres avec en violation de toutes les règles internationales, de toutes les règles d'Organisation mondiale du commerce, des règles sociales, des règles et des normes environnementales, enfin, etc., etc. Voilà, donc ça nous paraît un peu loin de nos frontières et un peu loin de nous, hein, mais l'impact que ça peut avoir là aussi sur l'Europe dans ses rapports avec la Russie, sur l'Europe dans ses rapports avec le Proche-Orient, sur l'Europe dans ses rapports avec l'Afrique, c'est très important parce que ces pays, ces zones géographiques-là, eh bien, sont de plus en plus influentes sur l'ensemble de la planète, y compris sur les territoires dont nous pensions jusqu'à maintenant que c'était un peu nos terrains de jeu réservés et qui le sont de moins en moins.
Pensez-vous que la Chine réussira à prendre le leadership mondial ou c'est perdu d'avance ?
Je ne crois pas qu'ils prendront le leadership mondial. pour plusieurs raisons. D'abord parce que ils sont dans une quête de toute puissance technologique, mais qui est limitée par une vision de l'économie qui reste une économie qui n'est pas directement tournée vers les marchés, hein, qui n'est pas une économie libérale. Enfin, on peut le dire comme on veut, mais voilà, il y a quand même quand vous avez dans les grandes entreprises chinoises des dirigeants qui sont surveillés, coachés, nommés, sous influence et qui peuvent en permanence se faire couper la tête par le Parti communiste chinois, ça pénalise d'une certaine manière un peu l'innovation, le mouvement, la capacité à aller sur les marchés financiers. Donc, dans sa conception même, je dirais, hein, l'économie chinoise qui s'est plutôt bâtie sur le marché chinois, sur la masse de la population chinoise et sur la montée de la consommation chinoise progressive, elle est quand même un peu limitée. Deuxième point faible de la Chine, c'est la démographie, hein, c'est-à-dire que la Chine est une puissance vieillissante, c'est une population qui a tendance et qui va décliner dans les années qui viennent. Et donc, ce manque de dynamisme démographique-là, qui a été voulu et choisi là encore par les autorités chinoises, c'est un point qui peut handicaper la Chine parce que ben, il y aura de plus en plus de populations vieillissantes, de plus en plus d'inactifs et donc une population active sur laquelle reposera la richesse chinoise. Et donc, c'est un point important. Voilà. Troisième sujet, mais qui est un peu lié aux deux autres, c'est la bataille technologique, parce que c'est évidemment autour de l'innovation, de la technologie, des dépenses de recherche que l'avenir du monde se décline, et c'est ce qui fait que l'économie américaine reste et de loin la première économie par sa capacité d'investissement, d'innovation, de recherche et d'attractivité pour faire en sorte que les meilleurs de l'ensemble de la planète se retrouvent sur son territoire, dans ses universités, dans ses centres de recherche. Voilà, les meilleurs étudiants ou les forces intellectuelles indiennes, elles sont dans les universités de la Californie ou les grandes universités américaines, elles vont pas dans les universités chinoises. Donc, je ne prends que cet exemple pour bien montrer que la force d'attractivité d'un pays comme les États-Unis fait qu'à mon avis, les États-Unis vont rester encore pendant très longtemps la première puissance du monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de rivalité sur certains segments, sur certains secteurs et que dans certains endroits, l'économie chinoise puisse compter et puisse faire valoir des succès. Mais puisque vous me demandiez un pronostic, je pense que la Chine ne deviendra pas la première puissance économique du monde et que les États-Unis vont le rester.
In fine, pensez-vous que la tech permettra et contribuera à créer un nouveau système économique mondial, notamment avec la blockchain, les médias sociaux et le digital ?
Alors, de fait, c'est déjà un peu le cas, hein, c'est-à-dire que les grandes entreprises de la planète qui sont poussées, tirées, et dont la croissance vient de la technologie, vient de la recherche, vient de l'innovation, vient du digital, sont déjà en large partie les organisatrices de l'économie mondiale, les grandes puissances économiques mondiales, et beaucoup sont beaucoup plus influentes et importantes que des États eux-mêmes. Hein, voilà, donc on t'en prend les GAFA ou l'équivalent des GAFA en Asie. Vous avez là un ensemble d'entreprises qui sont toutes puissantes, autour desquelles s'organise un écosystème économique, financier, extrêmement important, c'est déjà en train de se passer. Voilà. Et quand en plus elles se lancent pour certaines dans la conquête de l'espace, dans l'organisation du transport aérien, dans toutes les chaînes de la logistique, etc., vous voyez bien que toute l'économie mondiale est en train de se structurer autour de ces grandes entreprises et de ces grands leaders économiques. Voilà. La question, c'est de savoir jusqu'où ça va et est-ce que il y a une réaction finalement des gouvernements, des États, d'une certaine manière des populations, là encore où c'est possible, pour dire oui mais attention, il y a des dangers parce que ces entreprises pèsent sur le marché mondial, sur l'économie mondiale, sur le commerce mondial, soit, mais quand elles viennent à peser aussi sur le fonctionnement des États, le fonctionnement démocratique, la liberté, les libertés individuelles, les libertés, voire les libertés de pensée, c'est une remise en cause profonde du système, en tout cas du système social et du système démocratique là où il existe. Bon, quand il n'existe pas, c'est moins dangereux, mais en tout cas pour des pays comme nous les connaissons, nous en Europe ou dans le monde occidental, c'est évident que d'avoir des Google, des Amazon, des TikTok ou des SpaceX ou X, vous voyez bien le choc que ça peut représenter et qui fait que la régulation, les normes, les règles, les démocraties, les gouvernements se disent comment on fait pour limiter tout ça, comment on fait pour éviter qu'il y ait trop de concentration, comment on fait pour éviter que nos libertés individuelles, nos données individuelles, nos identités soient préservées pour éviter d'aller vers un monde dont on pensait qu'on ne décrivait finalement que dans les films de science-fiction. Voilà. Donc ce choc-là et ce rattrapage-là par les démocraties, par les régulations, par les États, par les gouvernements, c'est un moment important dans lequel nous sommes aujourd'hui et je ne sais pas sur quoi ça débouchera demain. Voilà. Hein, qui l'emportera dans cette affaire ? Est-ce qu'on trouvera un équilibre, ce qui est souhaitable ? Ou est-ce que, d'une certaine manière, on basculera dans un monde de la technologie de la finance et où les grandes entreprises domineront le monde et régiront nos vies individuelles, ou est-ce qu'au contraire, on cassera à un moment donné ces grands conglomérats, ces grands groupes, ces grands ensembles économiques en leur disant vous êtes devenus trop gros, trop imposants et on va limiter votre croissance et votre développement.
La démocratie, c'est un peu la gouvernance par le peuple. Imaginons que les internautes puissent prendre des décisions par vote sur les GAFAM dans leur pays dans le futur.
Je ne sais pas, c'est-à-dire je pense que la démocratie aujourd'hui, elle ne passe pas par les internautes et par Internet. Voilà ce que je ressens très très profondément dans ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est-à-dire que Internet ait été pendant un moment une source d'échange, de dialogue, de libération, mondialisation d'une certaine manière des opinions, la capacité à échanger aux quatre coins du monde et en temps réel sur tous les sujets, c'est indéniable et c'est réel. Mais quand on voit aujourd'hui, et justement parce que les vecteurs ou les diffuseurs de ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux sociaux n'ont pas suffisamment contrôlé l'éthique, la responsabilité, les fake news, les opérations de déstabilisation, les attaques organisé par des systèmes de trolls, etc. Comme tout ça n'a pas été organisé, contrôlé par une régulation internationale et mondiale, Internet est aujourd'hui devenu un endroit où c'est pas la démocratie, c'est la haine, le rejet de l'autre, la déstabilisation, les agressions, les manipulations, les fake news. C'est plutôt ça qui est en train de se passer aujourd'hui sur Internet. Et donc, ce qui est sûr et certain, c'est que avant qu'on invente une forme de démocratie qui ferait appel ou dont les électeurs ou les gens qui sont appelés à se prononcer soient les internautes, à mon avis, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Voilà, parce qu'on ne sait pas qui est internaute, parce qu'on ne sait pas qui se cache derrière les adresses Internet, parce qu'on sait très bien que des États, des gouvernements et des entreprises organisent la diffusion de leurs pensées, de leurs idées, de leurs idéologies par des faux comptes, des faux profils et de façon extrêmement massive aujourd'hui dans des opérations de déstabilisation. Voilà. Donc la démocratie, elle continue à passer par d'abord le vote hein, et l'élection quand elle est démocratique, pas l'élection à la Poutine, mais l'élection telle qu'elle se déroule dans nos pays, à nous, avec de la transparence, avec des contrôles, avec des autorités administratives indépendantes, avec des cours constitutionnels, avec des juges, avec des gens qui soient capables de dire des choses. Et on voit bien comment c'est difficile de la faire exister, parfois même, y compris dans nos pays, mais aussi dans des pays en développement. On peut penser au continent africain, où on voit bien comment la démocratie vers laquelle les peuples essayent de s'organiser peut être mis à mal par des chefs d'État qui veulent pas quitter le pouvoir, qui changent les règles de la Constitution, qui s'accrochent au pouvoir indéfiniment, qui mettent leurs opposants en prison. Enfin bon, bref, tout ça, c'est quand même plutôt de cette manière-là que la démocratie peut se construire et exister. Et je pense qu'Internet est aujourd'hui plutôt un lieu de déstabilisation de la démocratie qu'un lien de renforcement de la démocratie.
Merci Alexandre.
Merci à vous, je suis toujours ravi d'échanger avec vous.
Ravi aussi d'échanger avec vous. À très bientôt.
À bientôt.
Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de le partager. À bientôt. Ciao, ciao.
Double Bang Company.